Radio Totem.
Midi Libre.
48 F.
Municipal 2014, Mende.
Le débat.
Le débat.
Municipal 2014. Eh bien le bonjour à toutes et à tous, un deuxième débat concernant les élections municipales, un débat qui vous est toujours proposé par Totem, Midi Libre Lozère et 48 FM. Alors après la culture la semaine dernière, nous allons nous intéresser aujourd'hui au social et à la santé. Le social, les relations entre personnes, la solidarité, l'aide aux plus démunis, la vie dans les quartiers, la vie entre habitants. Il sera question de tout cela pendant plus d'une demi-heure avant d'évoquer la santé et notamment faire un point sur l'hôpital de Mende. La mairie étant amenée à diriger le conseil d'administration, nous évoquerons dans ce débat les pistes de chacun pour aider ce qui reste à l'heure actuelle le plus gros employeur de la ville. Alors tout comme pour le premier débat, nos invités auront un temps de parole équivalent, chronométré. Et pour vous poser des questions, mesdames, messieurs les candidats, Luc Respond-Lérisson, journaliste à Midi Libre Lozère, bonjour.
Bonjour.
Et Adrien Lazzarini, journaliste à Totem, bonjour.
Bonjour.
Alors, vont débattre pour la liste irrésistiblement de liste de gauche sortante d'Alain Bertrand, Régine Bourgade, comptable à la retraite, actuel bras droit du maire de Mende, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour la liste 100% Mende, liste de droite de Ginette Brunel, Marie-Christine Guittard, médecin conseiller technique auprès de l'inspectrice d'académie de la Lozère, bonjour.
Bonjour.
Enfin, pour Mende à gauche, la belle, la rebelle, liste d'extrême gauche de Patrick Allou, Mathieu Pertossi, professeur de français et d'histoire, bonjour.
Bonjour.
Donc nous avons effectué un tirage au sort pour savoir qui aurait la parole en premier lieu. C'est la liste 100% Mende qui a obtenu le droit de répondre à la première question posée par Adrien Lazzarini.
Oui, Madame Guittard, une première question sur la politique générale justement concernant le secteur social. Est-ce qu'elle sera davantage tournée vers les projets structurants, les grands projets, ou plutôt vers les associations ?
Alors d'abord, bonjour à tous les Mendois qui nous écoutent aujourd'hui donc pour ce débat. Dans une politique sociale, une ville a besoin de toute façon de trouver un équilibre sur des projets structurants et sur de la politique auprès des associations. Alors au niveau des associations, nous avons un projet particulier. Les associations caritatives qui œuvrent sur la ville de Mende se retrouvent très souvent en difficulté, donc sollicitent des subventions. Notre projet, c'est de pouvoir leur garantir une certaine sérénité en ayant un plan pluriannuel au niveau des subventions, c'est-à-dire en leur garantissant sur un projet précis et des objectifs, des subventions qui seront donc définies à l'avance sur 3 ou 6 ans, nous verrons à ce moment-là. Ça va leur permettre d'abord à elles d'être sereines et de ne pas être obligées d'aller chercher chaque année les subventions annuelles, et ça permettra aux finances de la ville d'avoir une visibilité beaucoup plus importante donc au niveau du budget. Ces associations sont à soutenir. Je dirais que, comme tout le monde, notre rêve serait qu'il n'y ait plus d'associations caritatives, mais nous savons très bien que la précarité actuellement que nous retrouvons en France et Mende n'est pas du tout à l'abri, malheureusement, de ce phénomène, fait que nous avons des associations qu'il est important de soutenir dans tous leurs projets. Nous verrons avec les associations caritatives, justement, quels sont d'autres projets qu'elles souhaiteraient pouvoir mettre en œuvre de façon à aider les plus démunis. Ça, c'est au niveau associatif. Au niveau structurant, il est évident qu'une ville doit avancer, une ville doit pouvoir se structurer un petit peu plus. Donc, nous regarderons quelles sont en effet les structures que nous pouvons mettre en œuvre sur le plan social qui amélioreront la solidarité auprès des personnes les plus fragiles, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées ou les personnes handicapées. Ce que nous souhaitons surtout, c'est d'aller au plus près des personnes, d'être beaucoup plus mobiles. Nous évoquons par exemple dans notre programme un point info retraite avec un écrivain public. Je souhaite que cet écrivain public ne reste pas dans un lieu défini, mais sache bien aller auprès des personnes les plus isolées. Dans le porte-à-porte, nous rencontrons beaucoup de personnes qui nous disent qu'en effet, il y a un manque de lien social actuellement, qu'il y a un manque de convivialité. Donc, parmi nos projets, nous souhaitons aussi remettre en place les réunions de quartier, qui sont un élément très important de façon à permettre aux gens de se connaître et de façon à accentuer la solidarité entre voisins. Cela aura aussi l'avantage d'être plus près des Mendois pour voir quel est leur quotidien, car ce qui intéresse beaucoup les Mendois, c'est surtout leur quotidien. Alors, les projets, bien sûr, il en faut en ville et nous en ferons. Donc, il n'est pas question d'arrêter toute dépense ou tout investissement, comme on peut l'entendre. Mais nous sommes beaucoup plus préoccupés par le quotidien des gens.
Très bien, Madame Guittard. Même question à Madame Bourgade.
Je vais commencer par vous faire un petit peu le bilan de notre action depuis 6 ans. Donc, en termes de structure, il y a eu la création d'une crèche à Valcroze où 60 places ont été rendues possibles, avec également la possibilité d'accueillir des enfants en difficulté avec une auxiliaire de vie. Il y a eu également la création du centre social avec la Maison solidaire, en développant des actions en partenariat avec diverses associations qui l'utilisent, la Maison de l'enfant, Naître et Grandir, la FME et également le centre de loisirs. Cette maison solidaire est un lien intergénérationnel aujourd'hui incontournable, où se côtoient les aînés et les plus jeunes. Il y a également un lieu d'accueil famille avec la présence d'une référente famille. Et cette maison solidaire est gérée par le CIAS. Le soutien aux associations caritatives, c'est plus à démontrer, puisque 2009, régulièrement, nous rencontrons la totalité des associations avec qui nous faisons un point de façon régulière pour leur permettre d'avancer dans les demandes qu'elles ont, et notamment nous avons pu leur mettre à disposition des locaux tout dernièrement. Il y a également le CIAS aide les familles en difficulté pour le financement soit des cantines, soit des différentes problématiques de combustible. Il y a également eu la mise en place d'animations culturelles dans les deux maisons de retraite, plus la résidence Piancourt, animations réalisées par des professionnels. Ces rencontres entre résidents ont lieu de façon régulière, et ça aussi, c'est du lien entre générations. Il y a eu également l'acquisition de téléalarmes pour les personnes âgées, la rénovation par tranche d'appartements de la résidence Piancourt, la climatisation et la rénovation des cuisines et des communs. Nous avons également fait 16 jardins familiaux sur Fontanier, jardins qui sont très, très occupés et qui permettent également des rencontres et des échanges. Pour les jeunes, l'opération permis en poche, l'informatisation des écoles publiques et privées, la création d'un livre d'accueil étudiant et également donc le soutien au projet du Conseil municipal des jeunes. Quant au projet, aujourd'hui, il y aura la création d'une halte garderie en centre-ville, l'achèvement de la maison de quartier, où également donc, nous pourrons y retrouver du lien social, puisque à l'intérieur de la maison de quartier vivront plusieurs associations, notamment l'association Vivre à Fontanie, le Sporting Club, et également on y trouvera des personnes qui accompagneront les gens, soit à rédiger des CV, soit des demandes d'emploi, également un écrivain public. On continuera donc à maintenir de façon élevée l'aide aux associations caritatives, comme on le fait aujourd'hui, ainsi que la poursuite de mise à disposition de locaux pour ceux qui n'en ont pas encore. Et également est en projet la création d'une épicerie sociale et solidaire avec également des associations caritatives. Également, donc, il y aura la présence d'un référent aîné qui sera soit basé sur différents lieux, permettre d'accueillir les personnes seules et les personnes âgées. Le transport à la demande pour les personnes âgées qui sont éloignées, dont le TUM ne peut pas les desservir, donc à 1 euro à la demande. La création d'une résidence-service, en lien aujourd'hui avec la résidence Piancourt, pas trop éloignée de celle-ci, puisqu'il y a une liste d'attente et il y a une demande dans ce sens-là. La création de l'université de temps libre et également un revenu étudiant minimum et la création de la carte d'étudiant également avec les associations qui le font déjà, le droit aux vacances.
Très bien, Madame Bourgade, beaucoup de projets, on va y revenir durant cette émission. Avant de vous donner la parole, Madame Guittard, je vois que vous voulez la prendre. Monsieur Pertossi, le social, qui est un des thèmes essentiels de la liste Mandat Gauche, Label La Rebelle, un thème majeur, on pourrait dire. Même question qu'aux deux autres personnes ici dans la salle. Oui. Quelle sera votre politique générale concernant justement le secteur social?
Alors, d'abord, nous, c'est Mandat Gauche et pas Mandat à l'extrême gauche. Label La Rebelle. Donc juste cette petite précision sémantique qui est très importante. On n'est pas des extrémistes.
Oui, enfin c'est une liste qui se voilà, place à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Quand
oui,
même.
Qui se trouve à gauche de l'échiquier politique. C'est une précision sémantique mais importante. On aura l'occasion, j'espère, de pouvoir en reparler tout au long de ce débat pendant une heure. D'abord, bonjour aux Mandoises et aux Mandois qui nous écoutent et qui voient arriver à grands pas les élections municipales. C'est très compliqué de pouvoir répondre de façon aussi général à un sujet aussi vaste que le social. Le social, c'est quelque chose que l'on a chevillé au corps quand on est de gauche. C'est donc le cœur même de toute notre réflexion. En gros, on pourrait dire tout est social. Alors évidemment, il faut fonctionner avec des associations caritatives. Vous l'avez dit, vous en avez parlé, des associations caritatives, qu'elles soient laïques ou non, c'est très important. On sait que sûrement il y a plus de 200 foyers qui font appel aux associations caritatives quotidiennement. Ça prouve qu'il y a un réel besoin et qu'on traverse au niveau national une période de crise, mais aussi au niveau local. Alors après, il y a des associations caritatives, oui, c'est du social. Il y a aussi des associations culturelles, car faire de la culture, c'est aussi faire du social. Et bien évidemment, mais ça, on en avait déjà parlé la semaine dernière, la municipalité, l'équipe, quand vous nous aurez élus, on mettra en place tout un système d'aide et de subventions aux associations caritatives d'une part et aux associations culturelles d'autre part. D'autant plus importante pour les associations caritatives que la réforme européenne a fait en sorte que maintenant les fonds européens sont beaucoup moins importants pour les associations caritatives. Je rebondirai sur ce qu'a dit madame Bourgade.
Oui, pour les associations caritatives au niveau européen, ça devait être réduit, mais ça ne l'a pas été, du moins pour les 5 ans.
Oui, pour les 5 ans à venir. Oui, mais voilà. C'est un mandat de 6 ans.
Oui.
Je rebondirai donc joyeusement sur un exemple qu'a pris madame Bourgade. Et après, vous verrez que nous, on est très concret sur plein de points. Au niveau très précis, et vous aussi, madame, vous le proposez sur la liste de madame Brunel. Une épicerie solidaire.
C'est sur votre liste.
C'est aussi, nous aussi on le propose, ce qui prouve que, ma foi, ça ne doit pas être une mauvaise idée, pour que ce soit repris ainsi, surtout l'échiquier politique. Qu'est-ce que c'est qu'une épicerie solidaire et comment ça se finance? Je ne sais pas si vous avez déjà vous-même réfléchi à ça. Il se trouve que jusqu'au mois de janvier de cette année, les épiceries solidaires étaient financées par le programme européen d'aide aux plus démunis, le PEAD. En janvier, le PEAD a changé, c'est devenu le FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Ce changement d'une seule lettre a tout modifié. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le Fonds européen d'aide aux plus démunis ne peut apporter de subventions qu'aux associations qui font du gratuit. Or, une épicerie solidaire, c'est une épicerie qui propose aux usagers de payer 10, 30, 40%, après ça se définit, du prix de base du produit. Donc, elles ne reçoivent plus ces aides. Madame Carlotti, c'est la ministre en charge de la lutte contre l'exclusion. Je ne sais pas si vous connaissez ou si tous les auditeurs et toutes les auditrices connaissent Madame Carlotti. On connaît plus facilement Monsieur Moscovici, le ministre de l'économie. On connaît moins Madame Carlotti, qui est la ministre en charge de la lutte contre l'exclusion. Ça doit être probablement, une question de priorité du gouvernement. On préfère connaître le ministre de l'économie que celle qui lutte contre l'exclusion. Bref, Madame Carlotti va débloquer 3 500 000 ou 4 500 000 euros pour pouvoir financer ces épiceries solidaires, ce qui veut donc dire qu'elles ne sont pas remises en cause. Voilà un exemple, par exemple, très précis ici sur Monde. Après, évidemment, ça va être aussi des politiques générales. Ça va être le logement, notamment, sur lequel on va travailler, sur l'eau, la régie publique que l'on va proposer, sur les transports, sur l'hôpital. Après, on en parlera, mais bon, voilà, rapidement, ce que je pouvais dire.
Très bien, on reviendra avec vous tout à l'heure. Madame Guittard, vous vouliez intervenir, je crois.
Oui, je voulais rebondir sur un projet dont Madame Bourgade a parlé, qui est une halte garderie en centre-ville, juste pour signaler que l'offre actuellement pour les tout-petits s'avère être suffisante. Elle met même en difficulté certaines assistantes maternelles qui nous disent ne plus avoir de travail ou avoir de grosses difficultés. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le comité départemental de l'accueil pour jeunes enfants qui, plus est, au niveau de l'éducation nationale, il y a un effort important qui est fait pour l'accueil des enfants de moins de 2 ans. Donc, nous avons fait aussi un projet de halte garderie, mais qui sera très différent puisqu'il est destiné à des enfants qui ont des troubles du comportement, pour dire les enfants qui ont des troubles du spectre autistique dans le cadre du plan autisme, parce que c'est certainement à ce niveau-là, par contre, qu'il y a un manque.
On sait combien d'enfants sont concernés sur Mende par...
Alors, sur Mende, on doit avoir à peu près 8 à 10 enfants qui sont concernés, qui ne peuvent pas être scolarisés à temps complet, parce que leurs difficultés ne leur permettent pas d'être scolarisés, même s'il y a une classe spécifique qui a été...
Il y a des classes CLIS.
Voilà, qui a été ouverte.
Qui a d'ailleurs été rénovée actuellement.
Voilà, enfin, qui a été rénovée puisque la compétence actuelle. Voilà. Alors, il y a une classe spécifique pour les enfants qui ont des troubles du comportement. C'est la compétence de la commune, bien sûr, de faire les travaux nécessaires pour permettre l'accueil de ces classes. Mais malgré tout, ce sont des enfants dont les parents, nous le voyons bien, ont de grosses difficultés, ont besoin de répit. Nous sommes particulièrement sensibles, et je rebondirai sur ce que vous avez dit, il n'y a pas besoin d'être de gauche pour faire du social. On peut être aussi pas de gauche, mais avoir le social chevillé au corps. Et donc, nous avons un regard particulièrement important sur le handicap aussi. Hein, donc, ce projet en fait partie, mais sur l'accessibilité de la ville aussi, qui pose d'énormes problèmes. Je rappelle que nous sommes les 90e sur 95 préfectures sur l'accessibilité.
On en reparlera durant cette émission.
On en reparlera donc après, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, mais tout ça, ce sont en effet des projets qui permettent d'apporter une réponse à des besoins que nous avons identifiés au quotidien des gens. Hein, donc, il y a bien sûr les projets de résidence service. Mais ça, je crois qu'on a, on a une réflexion commune sur ce sujet-là, de façon à apporter une structure intermédiaire entre les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et puis la RPA, donc, qui dépend du CICAS.
Tous ces projets-là, on voit, il y en a beaucoup. Ça coûte de l'argent quand même. Quelle est la part du budget municipal que vous voulez consacrer, justement?
Alors, aujourd'hui, je ne m'engagerai pas sur une part de budget, n'ayant pas les éléments. Et puis, je rappelle que ça ne veut pas dire que la commune est obligée de tout faire. Hein. Par contre, la commune a un rôle très important de soutien et d'accompagnement de projets. Hein. Une halte garderie, par exemple, pour enfants ayant des troubles du comportement, ce ne sera pas obligatoirement la commune qui le fera. Je n'en sais rien. Quand nous serons aux commandes, nous nous pencherons très, très finement sur ce genre de projet. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra dire qui fera et comment ce sera financé. Hein. Mais de toute façon, tous les projets que nous avons bien réfléchi sur est-ce que c'est finançable, est-ce que c'est réalisable. On ne fait pas de promesses qui ne sont pas réalisables.
Très bien, merci Madame Guittard. Madame Bourgade, au niveau du budget, quelle est la part du budget qui est consacrée au social sur la municipalité actuelle? Et peut-être si vous voulez dire un mot également sur ces classes CLIS et sur l'implication de la mairie.
Aujourd'hui, le budget du CIAS, puisque c'est le CIAS qui gère toute la partie sociale, est de 3 300 000 euros, qui comprend l'ensemble des opérations à caractère social. Donc, que ce soit la maison solidaire, les crèches, et puis demain, la nouvelle halte-garderie, je le précise, ne va pas impacter sur les assistantes maternelles qui ont des difficultés à trouver des enfants à garder, parce que c'est deux entités différentes, une halte-garderie et une crèche. C'est un autre mode de vie que des enfants gardés par une assistante maternelle à la maison. Donc c'est aussi un choix de vie des parents. Et c'est le montant global, c'est 3 300 000 euros aujourd'hui sur le CIS.
D'accord, très bien. Merci beaucoup, Madame Bourgade. On passe à vous, Monsieur Pertossi, avec cette budgétisation du social. On sait que vous voulez baser, vous, sur le quotient familial pour plusieurs domaines. Donc, je suppose que déjà, ça se budgétise en amont, savoir combien on va sortir pour donner de la gratuité ou de l'aide aux familles les plus démunies.
Alors pour le quotient familial, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est pas une invention de l'équipe Mandat Gauche Label La Rebelle, c'est quelque chose qui existe déjà dans beaucoup d'autres communes. Le fait est que, c'est dommage que je l'ai pas entendu ici, une élection municipale a un caractère national. Pourquoi est-ce que les municipalités, les régions et les départements se retrouvent à avoir de plus en plus à supporter le poids du social, de la culture, des transports? C'est parce que progressivement, l'État se désengage. On assiste à une libéralisation forcenée partout sur le territoire. Ce qui veut donc dire qu'en votant pour nous, bien évidemment, vous votez contre cette libéralisation.
Après, ça changera rien au niveau du président de la République, qui ne va pas démissionner
non,
pour autant.
Non, mais par contre, les élus municipaux votent entre eux pour élire leurs représentants nationaux, notamment au Sénat. Monsieur Bertrand nous le rappelle assez souvent, grâce à son poids au Sénat. Donc si vous voulez qu'on ait du poids au Sénat, votez pour nous. Vous savez, si j'aimerais paraphraser Lincoln et vous dire que si vous trouvez que l'entraide, le social, ça coûte cher, essayez donc de faire du social privé et vous verrez ce que ça donne. Si vous venez chez moi, imaginons, tous les deux, on va dire qu'on a le même salaire. Vous regardez mes comptes et vous allez voir que je dépense tant pour mon logement, tant pour mon énergie, tant pour la culture, tant pour mon transport. Vous avez le même salaire et vous ne dépensez pas pareil. C'est-à-dire que vous déplacez ça différemment. Vous avez des lignes budgétaires et ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas parce que d'un seul coup on dit que nous, on va mettre le paquet sur le social, que automatiquement ça veut dire que la ville va être en déficit. Ça veut donc dire juste qu'on va prioriser. On priorise. Parce que c'est indispensable, c'est le vivre ensemble.
Ça veut dire qu'il y aura d'autres pans qui auront moins d'argent aussi. Et donc ça, il faut le dire au monde.
Ça veut dire qu'on va se battre, y compris au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, pour obtenir des fonds et pour changer cette orientation politique de façon à ce qu'on puisse bénéficier de plus d'aides. C'est éminemment politique, c'est pas seulement de la gestion. La semaine dernière, sur votre antenne, il y avait la représentante d'une liste qui disait qu'ils étaient gestionnaires. Hier, sur Radio Vive, ce sont des gestionnaires. Mais figurez-vous que nous, on sait gérer, mais qu'en plus, on a une idée politique. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix.
Très bien. Faudrait nous donner un peu des exemples d'action également dans cette émission.
Vous en voulez ?
Ah, moi, j'en veux bien, oui. Okay. Enfin, c'est les Mondois qui en veulent surtout.
Il n'y a pas de problème. Je ne savais pas si les questions tombaient, donc on ne sait pas comment elles tombent, donc du coup, je ne savais pas.
Voilà,
le quotient familial.
Oui, allez-y.
Oui. Le quotient familial. Donc très rapidement, le quotient familial, qu'est-ce que c'est ? On va proposer par exemple un quotient familial pour les cantines. On va proposer donc de lisser les dépenses en fonction des revenus. C'est un principe de base de solidarité. C'est pas un principe de base de charité ou de faire du caritatif. C'est de la solidarité. C'est-à-dire qu'on est sur le long terme et on est pour tout le monde. Nous, on travaille sur le temps long. Par exemple, là, il est quelle heure ? Il est 1h, les gens qui nous écoutent sont probablement en train de manger en famille. À la fin du repas, si ça se trouve, il ne vous restera qu'une seule part de gâteau. Vous avez deux enfants, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Ben, vous allez leur dire, partage avec ton frère, partage avec ta sœur. Ça, c'est de la solidarité. On le fait chez nous, on le fait dans nos cuisines, mais nous, on propose de le faire aussi au niveau national. Figurez-vous qu'en fait, manger, c'est quelque chose d'indispensable. Et là encore, c'est pas nous qui l'avons inventé. Ça a déjà été mis en place en 1954 par un monsieur Pierre Mendès France, qui avait offert du lait aux enfants français. Ça a aussi été mis en place par la droite, par monsieur Debré. Il n'y a pas plus à droite que monsieur Debré, qui offrait du lait dans sa commune. Et ben nous, on propose d'offrir, pour les plus démunis, le repas à la cantine, et ensuite de faire 5 tranches, la plus basse des tranches étant, et je prends mon petit papier pour être bien sûr, à 0,32 € par repas. Parce qu'aujourd'hui, c'est à 2,5 €. C'est-à-dire que ça représente une cinquantaine d'euros dans le mois pour une famille. On vient de dire qu'il y avait plus de 200 familles qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Donc voilà, vous voulez un exemple, le quotient familial pour les cantines. On l'appliquera aussi pour la culture. Parce que
également pour les transports, vous l'avez dit.
Pour les transports, on en reparlera, j'espère.
Vous êtes intéressé sur la composition de la population mondoise des différentes catégories socio-professionnelles pour savoir justement comment tout allait se jouer. Parce que moi, je me suis renseigné. J'ai vu qu'il y avait 7,28% de cadres, donc de hauts salaires sur la ville de Mende. C'est ces 7,28% qui vont payer pour l'ensemble des classes restantes. C'est encore les classes moyennes qui vont devoir supporter ce poids. Comment ça va se passer ?
Non. Non, ça va pas être les classes moyennes qui vont supporter l'ensemble du poids. Je suis moi-même dans la classe basse de la classe moyenne. Okay. On a des chiffres, notamment aussi pour le département, qui sont catastrophiques. 68% des foyers ont un plafond de revenus qui est inférieur au plafond HLM.
On va peut-être rester sur la ville.
Je le rapproche sur Mende. Il n'y a que 17,3% de logements sociaux sur Mende au lieu des 20% qu'impose la loi. Il y en a 68% qui sont en dessous du plafond HLM.
Madame Bourgade n'est pas d'accord sur ces chiffres.
Non, je ne suis pas d'accord du tout, puisqu'on est une des villes où il y a le pourcentage le plus fort de logements sociaux. On approche les 25%. Donc c'est loin de...
On n'a pas les mêmes chiffres.
Voilà.
Voilà.
C'est intéressant.
On laissera voir les Mendois, les auditeurs, de se renseigner sur les chiffres.
Moi, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Moi, c'est le Conseil général qui le dit, et il l'a dit déjà en 2011 dans son 5e plan départemental d'action pour les personnes défavorisées, madame.
Oui, après, peut-être depuis 2011, il y a eu des consultations.
Non, puisqu'il s'arrêtait en 2014 et il prévoyait, et il nous disait qu'il manquait des T3. et qu'il y avait un problème énergétique sur la Lozère. Or, des T3, il y en a 24 qui ont été construits. Donc, je veux bien, hein, si vous voulez. Si on en met 24 de plus, ça fait 25%, si vous voulez.
Très bien, Madame Borgel.
Vous parlez de la Lozère, pas de Mende.
Non, je parle de Mende.
Non, mais vos chiffres ne sont pas bons.
Ah bah, écoutez, tout le monde jugera.
On va laisser la parole à Madame Guittard, peut-être en changeant de question, avec Luc Crespon-Lérisson de Midi Libre, sur une nouvelle question concernant le social. Et d'ailleurs, ce n'est pas Madame Guittard de parler, c'est à Madame Bourgade, vu qu'on change de personne. Voilà, Luc, je t'avais demandé de me le dire. Eh bien, je le dis moi-même.
D'accord, mais pas de souci. Je vois que tu suis.
Voilà.
Ça revient un peu aux questions qu'on a posées précédemment, mais peut-être revenir un peu plus en détail sur le public qui sera visé justement par toutes ces actions sociales, par rapport à la petite enfance, par rapport aux jeunes, par rapport aux seniors, ou peut-être d'autres catégories qui selon vous auraient peut-être plus besoin de cette solidarité au niveau municipal.
Voilà, succinctement et concrètement, pour la petite enfance, pour les adolescents, les seniors, donc peut-être vous avez un bilan à défendre, nous expliquer, enfin vous en avez déjà parlé en introduction, mais savoir voilà, comment on travaille sur ces publics visés, qu'est-ce qu'on fait pour eux.
D'accord, donc effectivement j'en ai parlé en introduction, mais quelle action pour quel public? Ben, y a déjà au niveau des familles, je vais parler d'abord de la famille. Le soutien à la parentalité, dans le cadre des actions mises en place à la Maison solidaire, où des journées d'économie sociale et solidaire sont proposées, des projets autour du respect des différences, l'ouverture d'un espace parents d'adolescents qui fonctionne dès à présent, des soirées mensuelles sur les expériences entre parents, l'accompagnement des familles à l'autonomie pour l'épargne, le montage d'un budget, la gestion du budget familial. Donc tout ça, toutes ces opérations-là sont faites aujourd'hui à la Maison solidaire et le seront également demain à la Maison de quartier de Fontanille. Donc ça concerne les parents, les ados et également les enfants. Donc sur la Maison de quartier, on aura également, on a toujours le médiateur adulte relais qui intervient de façon régulière et qui va poursuivre son action puisque nous avons pu conventionner avec l'État encore sur un contrat de 3 ans. Donc il est épaulé d'une autre personne à mi-temps pour pouvoir effectuer ce rôle de médiateur qui fait de façon performante, donc toujours à l'écoute et à l'accueil des personnes qui viennent le rencontrer ou qui va rencontrer sur le quartier. Les rencontres également en direction des jeunes sur le quartier qui ont quelques problèmes de désœuvrement. Et également donc, sur la maison de quartier de Fontanille, on retrouvera des actions conduite par la mission locale en direction des jeunes, par le CIDIF en direction des familles, par le planning familial également au niveau des jeunes. Donc sera basé également l'écrivain public qui pourra permettre d'aider les gens en difficulté pour monter des dossiers, l'aide au montage des dossiers administratifs personnels. Et également, donc, ce lieu sera un lieu d'espace de vie, d'échange, de partage pour tisser des liens autour du vivre ensemble. Et des activités ludiques continueront, elles, à se tenir à la salle polyvalente que nous prévoyons de restaurer à l'intérieur. Également, il y a la mise en place de tarifs réduits pour certaines associations qui reçoivent du public en grande difficulté, comme le GEM, par exemple, pour accéder aux différents spectacles.
Est-ce que vous avez fait assez durant ce mandat pour ces différents publics, Madame Bourgade?
On ne fait jamais assez. Je crois qu'on a fait beaucoup, et d'ailleurs les associations sont reconnaissantes, mais il reste énormément de travail, et donc il faut toujours continuer à aller de l'avant et toujours en faire un peu plus. On n'est pas là pour dormir ou pour s'arrêter en route.
Très bien. Le front de gauche, Mende à gauche, la belle, la rebelle. Quel public visé? J'imagine bien sûr tous, mais quelles actions à mener en ce qui concerne la petite enfance, l'adolescence et les seniors?
Bon, je vois d'abord que j'ai mangé énormément de temps, beaucoup plus que les autres.
Oui, c'est pour ça. Voilà.
Donc je vais faire très très vite. Je vais vous prendre un exemple très concret. On est la capitale départementale, on n'a aucun lieu pour accueillir les femmes battues.
Le CIDFF est un lieu et oui. Ils ont des appartements à disposition.
D'accord.
Mis par la préfecture.
Okay.
Par le CICAS.
Voilà, ok. Simplement, ce lieu-là, il faut vraiment en faire quelque chose d'important. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Voilà. Vous voulez un public visé, voilà, par exemple, les femmes.
Voilà, il faut développer.
Et de façon générale, toutes les personnes victimes de violences. Les femmes sont évidemment beaucoup plus victimes de violences que les hommes. Les hommes sont aussi victimes de violences. Mais voilà, vous voulez un exemple, voilà. Je laisse la parole parce que j'ai pris trop de temps.
Très bien. Madame Guittard, même question, à savoir le public visé, les actions à mener.
Alors, le public, on a le public de tous les âges. Alors, je vais revenir très rapidement sur les enfants. Donc, comme je le disais, notre projet, c'est une halte-garderie pour les enfants ayant donc des problématiques particulières. Mais c'est aussi quelque chose de beaucoup plus simple, qui sont tout simplement un petit peu plus de jardins d'enfants dans notre ville. Hein. Voilà, il y en a 2-3 actuellement. Enfin, il y en a un troisième. Je ne sais pas si on peut parler de jardins d'enfants. Mais donc, de façon à pouvoir amener, toujours pareil, dans le quotidien, donc des moments, des lieux où elles peuvent promener leurs enfants en toute sécurité. Au niveau des adolescents, il y a donc un espace jeunesse qu'il va falloir peut-être redynamiser un petit peu, lui permettre d'être ouvert le samedi après-midi, hein, puisque actuellement il n'y a que Fontanier qui est ouvert. Bon, je sais qu'il y a des problèmes de planning de personnel et tout, mais c'est quand même dommage que l'antirouille qui est
voilà,
un lieu...
Voilà, vous parlez de l'antirouille.
Voilà, l'antirouille ne soit pas ouvert le samedi après-midi. C'est un lieu qui est important, l'antirouille, c'est un lieu où on peut retrouver les jeunes et les accompagner, hein. Ce n'est pas qu'un lieu d'activité, donc c'est un lieu où on a du personnel qui peut les accompagner, qui donc est le support d'un point info jeunesse. Moi, je souhaite par contre, alors je ne sais pas si ce sera à l'antirouille, si ce sera autre part, mais je souhaite aussi qu'on installe un point info santé pour les jeunes qui n'existe pas actuellement donc, sur la ville.
Ça existe plus ou moins avec certaines associations quand même sur Mende. Hein, alors, point info santé, la mission locale.
Alors la mission locale n'a pas de point info santé, hein, puisqu'elle elle souhaitait le faire, mais elle n'a pas pu le faire. Donc le véritable point info santé tel qu'il existe, on va dire, dans la réglementation, entre guillemets, n'existe pas sur la ville de Mende. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des associations. Hein, et donc je pense qu'il est important que toutes les associations, nous puissions très régulièrement les réunir justement pour faire le point, pour coordonner un petit peu tout ce qui est fait, pour faire connaître aussi ce que font les associations, parce qu'on se rend compte que souvent leurs actions ne sont pas toujours connues des Mandois et des Mandoises, et il y a un effort pour accompagner leur communication de ce côté-là. Donc nous avons au niveau des adolescents le permis, donc l'aide au permis qui sera maintenue, bien entendu. Mais nous avons aussi des adolescents ou des jeunes en recherche d'emploi qui sont en difficulté. Et là, nous allons réfléchir aussi à ce que nous pouvons leur apporter, par exemple, sur des facilités de logement sur 2-3 jours lorsqu'ils viennent pour des entretiens d'embauche, lorsqu'ils viennent chercher du travail ou lorsqu'ils doivent s'installer. Nous aurons peut-être la possibilité au travers du CICS aussi d'un prêt d'honneur. Hein. Alors le principe du prêt d'honneur, c'est de faire une avance d'argent qui est remboursable. Hein, et les expériences qui sont faites aussi bien au niveau de certaines associations, d'ailleurs qui le font déjà sur des petites sommes qu'au niveau des villes, les prêts d'honneur sont toujours remboursés. Hein. Les gens ont à cœur en général de rembourser ce prêt et qui peut être une aide apportée par exemple sur un changement de logement. Hein, quand on a une caution que l'on va récupérer 2 mois après, mais qu'on change de logement, on a besoin de sortir la caution du logement dans lequel on va rentrer, qui peuvent mettre en très grosses difficultés des gens qui sont à 20 euros près à la fin du mois. Au niveau des seniors, on en a parlé, il y a certainement à réfléchir sur une structure intermédiaire donc entre la RPA actuellement et les EHPAD, hein, donc les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
Et la RPA, dites-nous ?
Résidence pour personnes âgées,
voilà,
pour qui est un foyer, voilà, qui est un foyer logement qui dépend du CICAS et qui ne peut recevoir que des personnes valides. Voilà. Donc il y a une structure intermédiaire, mais il y a aussi à apporter à la population, en effet, de l'information, de l'aide administrative. Alors, je suis ravie d'entendre Mme Bourgade reprendre notre idée d'écrivain public, parce que c'est quelque chose que nous avons dans notre programme depuis le début. Comme je le disais, un écrivain public qui doit être mobile, qui doit aller auprès des gens et qui ne doit pas se contenter d'être placé au niveau de la mairie. Et puis, comme je vous le disais, nous sommes aussi particulièrement sensibles au handicap, hein, que ce soit le handicap au niveau de l'accessibilité, où nous avons pris énormément de retard. Le gouvernement vient de reculer à nouveau la date limite. Nous n'attendrons pas d'atteindre cette date limite pour faire ce qui est nécessaire sur les bâtiments qui concernent la commune, mais aussi dans toute l'aide que nous devons apporter auprès du privé, parce qu'il y a des aides qui existent. On doit les accompagner.
On va en reparler un peu plus tard, un peu plus en détail à ce niveau-là.
Oui, vous voulez interagir, Monsieur Perth, aussi ?
Oui. Les gens viennent nous voir dans la rue et nous disent que ils n'arrivent plus à savoir la différence entre des partis de gauche et des partis de droite. Ils sont complètement paumés. Et là, y a quelque chose quand même que... Enfin, je suis assis à côté de ces deux dames, elles sont charmantes. Elles sont adorables, elles ont l'air d'être très professionnelles.
Merci, monsieur.
C'est gentil. Mais elles sont toutes les deux sur des listes concurrentes. Mais elles sont toutes les deux dans le même parti politique. Et ça, c'est perturbant pour les électeurs. Parce qu'il faut qu'on sache où on va, quoi. Donc, nous, on a une ligne claire. Voilà, on a une ligne claire, on est bien installé. Et
oui, enfin, voilà. Certains arguments diffèrent quand même. Hein. Elles se rejoignent sur certains points.
Mais c'est ça qui est aussi très étonnant.
Vous aussi, vous rejoignez sur certains points.
Tout à fait, mais on n'est pas dans le même parti.
Vous n'êtes pas dans le même parti.
Et on est sur des listes concurrentes.
C'est dame non plus, je ne pense pas.
Hein. Ceci étant dit, j'aimerais juste vous poser une petite question. Est-ce que vous envisagez de parler de la régie publique de l'eau pendant le débat ou...
C'est à vous d'en parler. Hein.
J'aimerais bien pouvoir en parler maintenant, rapidement.
Alors, on va y revenir dessus parce que Mme Borgade est en retard et vous êtes très en avance.
D'accord.
Et vous aurez tout le temps nécessaire pour parler de cette régie publique de l'eau et peut-être de nous donner des chiffres, savoir comment ça va se financer.
Je vous remercie.
Madame Borgade, alors on va continuer à savoir peut-être Luc, une nouvelle question.
Oui, on a parlé des quartiers tout à l'heure. Justement, quelle est la politique que vous comptez mener par rapport à ces quartiers ? Aux différents quartiers de la ville. Par exemple, est-ce qu'il faut rapprocher les quartiers du centre-ville ou à l'inverse, améliorer, les rendre plus autonomes, améliorer la vie dans les différents quartiers. Comment vous imaginez ça, vous, dans le prochain mandat ?
D'abord, je pourrais répondre sur le point politique précédent.
Allez-y,
je vous en prie. Je suis sur une liste qui comporte plusieurs... personnes qui sont de milieux différents, d'horizons différents. C'est une liste plurielle. C'est une liste qui a fonctionné pendant 6 ans, sans aucun problème, sans aucune anicroche, et d'où qu'on vienne. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas travailler de cette façon-là.
Voilà. Très bien. C'est donc, juste quelque chose qui est tombé dans le studio. Continuez, madame.
Voilà. Donc concernant la question
c'est pas une liste de gauche,
qui vient de m'être posée, la vie des quartiers, elle s'organise par quartier en règle générale, avec une interaction, évidemment, sur la ville. Donc, aujourd'hui, on possède plusieurs points sur différents quartiers. Donc, on en a parlé, l'Antirouille. L'Antirouille n'est pas fermée en permanence le samedi, c'est ponctuel. Aujourd'hui, l'Antirouille a repris les activités de la salle polyvalente, donc se met en place des actions qui sont sur les deux points, Fontanille et Ville, pour les actions en direction de la jeunesse. Ensuite, on a la Maison solidaire qui accompagne aussi les familles et les enfants. Et donc, demain, on aura la maison de quartier, puisqu'à partir du mois de juillet-août, elle devrait fonctionner. Aujourd'hui, on travaille avec les riverains du lotissement de Valcroze. Il y a eu également plusieurs réunions avec eux pour voir comment on peut implanter un terrain de jeu qui soit un terrain pour ados ou qui soit un terrain pour enfants, pour tout petits. Et qu'il soit là aussi un lieu de rencontre du quartier. C'est une nécessité. Et donc, on avance dans leurs demandes. Et ça va voir le jour, pardon, dans le courant de l'année. Ensuite, sur les futurs lotissements que l'on prévoit, c'est-à-dire la Bergerie 3 pour 2015 et plus tard l'Ouchhouse et le Roussel. Il y aura des espaces qui seront préservés dans l'ensemble du lotissement pour justement pouvoir faire ces lieux de convivialité. Alors ça pourra être soit des lieux de jeu, soit des lieux de rencontre sur le quartier. Ensuite, également, dans les villages, on est aujourd'hui en discussion avec les parents d'élèves et les enseignants pour l'école de Chabris, puisque notre école... Elle a du succès étant donné que beaucoup d'enfants sur Valcroze vont à l'école à Chabris. Donc on a nécessité soit de l'agrandir, soit de reconstruire une école. Le choix a été fait en collaboration encore une fois avec les enseignants et les parents d'élèves d'agrandir l'école, de faire une école neuve à côté en utilisant une partie des locaux anciens. Et aujourd'hui, on travaille sur ce projet-là et qui laissera également la possibilité aux gens du village d'avoir un espace également de rencontre, un espace convivial. Ensuite, également, on est pour agrandir les jardins familiaux de Fontagny, qui aussi créent du lien et également permettent aux personnes qui ont des difficultés de pouvoir faire pousser leurs légumes et de pouvoir les consommer et consommer de bons légumes.
Très bien, Madame Bourgade. Monsieur Partossi, alors avant de cette vie des quartiers, si vous voulez dire un mot sur la régie de l'eau. Donc ça, c'est un point essentiel.
Oui, c'est le point essentiel.
La régie de l'eau.
C'est un des points essentiels. On a aussi tout ce qui concerne le logement, notamment le logement HLM. Et le logement HLM, pour les revenus moyens dont on parlait tout à l'heure, il n'y en a pas assez. C'est les PLI, je crois, ça s'appelle.
PLAI.
PLAI. On en reparlera tout à l'heure. C'est les PLI, hein. C'est les PLI, madame. Les PLAI, ce sont juste pour les revenus les plus bas. Le PLI, c'est pour les revenus les plus élevés. Du coup, quand j'ai les chiffres et que je peux vous prouver que j'ai raison, c'est beaucoup moins agréable. Donc, enfin, pour moi, ça l'est plus. Actuellement, la régie publique de l'eau. Quand vous ouvrez votre robinet, vous avez de l'eau qui coule et elle vous vient d'un partenariat public-privé. On appelle ça un PPP dans le langage professionnel. En France, actuellement, c'est 75% des foyers sur la totalité des communes qui ont de l'eau en PPP, c'est-à-dire avec une entreprise privée qui leur verse de l'eau. Les États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas d'extrême gauche, ce n'est pas des bolcheviques, c'est 20% seulement. Nous, c'est 75%. En France, ça veut donc dire qu'on a un système de quasi-monopole de deux ou trois grosses entreprises privées qui nous servent de l'eau. Une entreprise privée suppose des bénéfices. Or, on reste persuadé, nous, que tout ne peut pas faire profit. Et tout ne peut pas faire profit dans toutes circonstances et tout le temps. Parce que si on fait profit sur tout, en toutes circonstances, ça s'appelle le marché noir. Et ça, je m'excuse, on n'est pas d'accord. Et encore une fois, il faut bien que vous gardiez en mémoire que l'eau, c'est quelque chose de vital et qu'on ne peut pas en tirer des bénéfices. Et j'arrête immédiatement les éventuelles critiques qui pourraient venir. L'abbé Pierre n'est pas un gauchiste, lui non plus, il n'est pas d'extrême gauche. L'abbé Pierre et sa fondation proposent ni plus ni moins que le monopole d'État de l'eau. Nous, on propose une régie publique de l'eau. Quels vont être les impacts pour les Mandois immédiatement? Pour la régie publique de l'eau, ça va baisser les prix immédiatement. Donc, dans la première année, ça vous baisse les prix d'environ 30%. Ça génère de l'emploi, parce que du coup, il faut des fonctionnaires pour pouvoir gérer le service. Et on n'a pas besoin d'attendre 6 ans comme Monsieur Bertrand, puisque c'est aussi sur son programme. On n'a pas besoin de 6 ans pour pouvoir mettre en place une régie publique. On peut dénoncer le contrat qui nous lie, comme c'est fait dans de nombreuses villes en France.
Jusqu'à quand court le contrat de la régie publique?
Madame Bourgade va vous le dire.
Non.
C'est au cœur de leur programme.
Non, c'est à vous que je pose la question.
Non, mais allez-y.
Parce que vous, on ne peut pas dénoncer le contrat si on a encore 5 ans devant nous. Sinon, il y aura une grosse amende à payer.
Non.
Ah non, il y a une grosse amende à payer.
Non,
on
ne
peut pas se
tout.
Dire, hop, j'arrive, je dénonce le contrat. Ça ne se fait pas comme ça, voyons.
Alors, on est tout à fait d'accord, ça ne se fait pas comme ça. Simplement, ça a déjà été le cas. Encore une fois, on n'est pas des pionniers.
Quand les contrats se terminent.
Non. On est en retard. Okay, on n'est pas les premiers à le faire. Les contrats peuvent se dénoncer parce qu'il y a des vices et ainsi de suite. Et donc, ça a déjà été fait. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je vous dis que c'est faisable.
Monsieur Crespon-Lérisson, pour Midi Libre.
Juste peut-être Madame Bourgade qui voulait répondre.
Oui, je voulais simplement répondre que vous étiez un peu à côté de la plaque parce que le contrat, il termine en 2015. Oui. Donc, dès aujourd'hui, on commence à dire à la DSP, on commence à consulter.
Fallait le dire hier.
Soit pour une DSP, soit pour une régie publique.
Juste une petite question mécanique que j'ai eu un peu de mal à saisir. Vous voulez baisser le prix de l'eau, c'est ça?
C'est mécanique. Puisque vous avez 30% qui partent aux actionnaires.
Et employer des gens, donc des employés municipaux pour gérer ce truc-là. Donc ça veut dire que d'un côté, il y a de l'argent qui ne rentrera plus il y a moins d'argent qui va rentrer dans les caisses.
Non.
Et vous dépensez.
Mais non, c'est une entrée d'argent. C'est une régie publique. C'est
et les investissements que Veolia fait actuellement, vous allez devoir les faire.
Mais bien sûr, Veolia, c'est une entreprise privée qui reverse des dividendes à ses actionnaires. La reversion de ces dividendes équivaut à environ 20 à 30% du revenu total. Ça veut dire en gros que les prix sont majorés. Si on passe à une régie publique, encore une fois, on n'est pas les premiers. Donc, vous pouvez regarder dans toutes les villes où ça s'est fait. D'un seul coup, c'est pas devenu la décadence.
Si c'était la baguette magique, tout le monde l'aurait fait.
Mais tout le monde est en train de le faire. Mais tout le monde est en train de le faire.
On n'a pas les mêmes informations. Madame Guittard, vous voulez intervenir peut-être.
Oui, je voulais intervenir sur la régie d'eau. Il faut quand même que les Mandois qu'on dise tout aux Mandois. Oui, les régies d'eau, lorsqu'elles sont mises en place dans les villes, permettent de baisser très souvent le prix de l'eau. C'est vrai. Mais elle permet aussi d'augmenter les impôts parce qu'il faut aussi payer les investissements et les employés municipaux.
Oui, mais il y a plus de gens qui payent d'impôts, du coup.
Donc moi je dirais, c'est en effet une étude qu'il faut faire à chaque fois qu'il y a possibilité, en effet, de faire des économies sans que la qualité de ce qui est apporté soit mise en cause. Mm-hmm. Et on peut parler de l'eau, on peut parler des cantines, on peut parler d'autres services. Oui, il faut faire les études nécessaires, mais il faut aussi savoir que... ce n'est pas obligatoirement plus intéressant d'être en régie directe. On peut aussi en parler au niveau des ordures ménagères. Voilà. Oui. Donc, c'est votre projet. Bah, écoutez, nous, on a un projet de ne pas augmenter les impôts et parce que je pense que la pression fiscale est largement suffisante, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Donc, toutes ces possibilités de passer donc sur autre chose que des DSP peuvent être étudiées, mais nous resterons raisonnables pour que ça n'augmente pas les impôts pour autant au niveau des Mandois. C'est quand même leur quotidien et ça les intéresse de savoir que ça a un coût pour une commune qui peut être très important. Maintenant, je voudrais revenir sur les quartiers, puisque c'était votre question donc de départ. Au niveau des quartiers, il y a en effet une différence entre des quartiers, on va dire, anciens, hein, qui sont déjà installés, et des nouveaux quartiers comme Valcroz ou les villages, donc qui sont un petit peu plus éloignés. Je ferai tout à l'heure une petite aparté sur le quartier du centre-ville, qui est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Au niveau des quartiers, comme je le disais, nous souhaitons absolument remettre en place les réunions de quartier. Les réunions de quartier, elles ont deux buts. Elles ont un but de socialisation, ça permet aux gens de se connaître, mais ça permet aussi aux élus et aux services donc techniques de venir sur place de façon à voir quel est le quotidien des gens, quel est le devant de leur porte, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir évoluer dans leur ville. Je donnerai juste un petit exemple. Dans le porte-à-porte que nous faisons, les gens nous parlent beaucoup de leur quotidien. On nous parle, par exemple, sur Fontany, d'un espace, je ne sais plus si c'est basket ou volley, ou enfin un terrain de sport qui est installé.
Roller basket,
voilà. Qui est très important pour les jeunes. Hein, parce qu'ils ont besoin de ce lieu. Sauf qu'il y a beaucoup de nuisances l'été, hein, qu'il y a des interventions parce que ça fait du bruit. Voilà. Donc, c'est ce genre de quotidien que les Mandois veulent que l'on traite aussi. C'est-à-dire dire on maintient certaines choses, mais peut-être qu'il faut le déplacer autre part. Hein. On a des barrières qui gênent pour pouvoir passer avec des poussettes. On a peut-être des bancs à installer par endroit parce que les personnes âgées se fatiguent quand elles font leur tour. Voilà. Donc, les quartiers, à ce niveau-là, les réunions de quartier nous permettront de revoir un petit peu le quotidien des gens. Je voudrais revenir sur le centre-ville, qui est un quartier un peu particulier, qui nous préoccupe beaucoup, puisque c'est un quartier qui est en train de mourir, avec 8% de logements vacants au centre-ville, donc ce qui est énorme. Donc il va falloir faire une action importante pour revitaliser ce centre-ville, aussi bien au niveau des commerces que des logements.
Ce sera le grand thème du débat de ce vendredi.
De ce vendredi. Alors je laisserai débattre donc ce vendredi, mais je tenais quand même à dire que ça fait partie aussi de la solidarité et de la socialisation, hein, donc de se préoccuper de ce qui se passe donc dans les quartiers, et particulièrement au centre-ville, qui est un quartier lui-même.
Voilà, mais on y reviendra vendredi prochain à 12h30, c'est promis. Il nous reste une douzaine de minutes sur les deux derniers points, donc on va sans plus attendre passer rapidement à l'accessibilité pour garder quand même un grand point sur l'hôpital qui est, je l'ai dit en introduction, le plus gros employeur de la ville. L'accessibilité, question Adrien Lazzarini.
Oui, et cette étude réalisée par l'Association des paralysés de France, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, elle montre que Mende est la sixième ville française la moins accessible aux personnes en situation de handicap. Une note de 11,3 sur 20 et notamment un 8 pour l'accessibilité aux équipements municipaux. Alors, Madame Bourgade, comment est-ce que vous comptez répondre à ce défi, celui de la mise en conformité avec la loi ?
Déjà, nous avons une ville qui est une ville moyenâgeuse avec des petites rues, avec des difficultés d'accessibilité sur les commerces ou sur les habitations. Donc aujourd'hui, on a commencé à rendre accessible la totalité des écoles, ce qui était quand même une priorité. On a également la mairie annexe est accessible, donc tous les services municipaux, on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas accessibles. Les lieux de culture sont accessibles. Et également, on a mis en accessibilité le gymnase de la Vernède récemment. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en accessibilité le stade d'honneur Jean-Jacques Delmas au chapitre. Donc, pour ce qui est du TUM, le TUM aujourd'hui est en accessibilité, je dirais, 2/3, puisque le troisième doit être changé ce premier semestre 2014. Pour permettre l'accès à tout chariot, pour prendre les handicapés, pour les amener d'un quartier à l'autre. Ensuite, aujourd'hui, on a également l'Office du tourisme, qui est labellisé Tourisme et Handicap. Il y a la possibilité d'accueillir des non-voyants, puisqu'on a des documents en braille. Ça fait partie aussi de l'accessibilité à la culture. Également, on a la possibilité de déambuler en ville avec des audio guides, ce qui également fait partie de l'accessibilité. On a partout où on refait les trottoirs, on met les bandes podotactiles, donc les choses se font au fur et à mesure des réfections, et tout ce qui est les quartiers neufs ont tous été mis en accessibilité, que ce soit les voies circulables sur les côtés avec voies piétonnes et voies cyclistes. Et également, il y a un projet d'aménagement de l'ensemble des boulevards avec donc la mise également en accessibilité et du domaine partagé piéton-cycliste.
Voilà, si vous êtes réélu, l'effort va se porter sur quoi ? Sur la voirie, c'est ça ? Ça va être votre priorité sur le centre-ville ? Comment on fait avec ces pavés ?
Sur les bâtiments et la voirie. Aujourd'hui, la voirie, les pavés sont certains pour beaucoup dégradés et on est en train, au fur et à mesure, de les recimenter entre eux et de refaire des joints pour permettre un peu plus de planéité. Et également, aujourd'hui, on est en train de refaire la place du Mazel, qui était une place qui était difficilement accessible à des handicapés qui vivent dans l'immeuble parce qu'elle était très dégradée, les pavés étant complètement désolidarisés de leur structure. Et avec la société HLM, on a trouvé un terrain d'entente pour un partenariat 50-50 pour refaire la totalité de cette place qui donc sera plus facilement circulable pour les personnes à mobilité réduite.
D'accord, très bien. Vous êtes en avance, monsieur Partossi. L'accessibilité en quelques mots pour la liste Mandat Gauche, la Belle, la Rebelle.
Le handicap, c'est un problème important. Enfin, c'est un problème, entre guillemets. C'est une réalité importante pour toutes les personnes qui la vivent. J'ai eu le bonheur de pouvoir interpréter, entre guillemets, un rôle dans une pièce qui s'appelle Tremblement de terre, qui a été jouée sur Mende et qui est jouée un petit peu partout en France. Et notamment, je reprenais les phrases d'un monsieur connu en Lozère, qui dit que, quel que soit votre handicap, il fait partie de votre quotidien et vous en souffrez tous les jours. Et j'ai été en contact direct avec cette question-là, et notamment sur Mende. Il y a un problème, c'est vraiment la dignité humaine qui est quelquefois même remise en cause. Quand vous êtes en fauteuil roulant et que vous ne pouvez pas accéder à un magasin de vêtements et que le vendeur ou la vendeuse, gentiment, vous apporte les vêtements à essayer dans la rue, enfin, je veux dire...
Voilà, c'est un problème privé.
C'est un gros problème. Évidemment qu'on va régler ce problème-là. C'est indispensable.
Comment on force les commerçants à...
On ne force pas les commerçants. On se débrouille au niveau de la commune pour mettre des rampes. On met en place des systèmes, comme vous aviez dit, les bandes rugueuses. Évidemment, là, c'est le travail de base d'une municipalité, de base, mais important et immédiat. Quoi.
Très bien. Madame Guittard.
Oui, l'accessibilité, en effet, comme vous le dites, ça concerne en priorité la voirie. Alors, on parle toujours de l'accessibilité en fauteuil roulant. On a des personnages avec des cannes, on a des mamans avec des poussettes. Hein. Et pour moi, le handicap, ce n'est pas que le handicap physique, c'est aussi le handicap sensoriel. Hein. Donc, tout ce qui concerne la vue, l'ouïe et éventuellement le handicap mental sur certains aménagements à faire. Il y a à revoir vraiment quartier par quartier, justement, avec les habitants. Il y a à revoir justement les cheminements, il y a à revoir les trottoirs, il y a à revoir les barrières qui sont mal placées. Des fois, c'est pas une question d'argent. Hein. Des fois, c'est tout simplement une question de bon sens. Hein. Essayez de vous promener dans certains endroits avec une poussette. Enfin, moi, j'ai une petite fille. Quand je la prenais dans la poussette, c'était un véritable parcours du combattant. Sur des choses qui, parfois, sont simples. Simplement déplacer une barrière. Alors, bien sûr, il faut accélérer au niveau de la voirie hein, sur des choses qui sont déjà faites. Mais enfin, on reste quand même 90e. Je veux dire, c'est pas une très belle place au niveau de l'accessibilité. Au niveau du privé, vous dites que comment peut-on forcer les gens ? Ce n'est pas une question de les forcer, c'est de les accompagner. Il existe des aides qui sont mal connues. Mmh. Et je pense que le rôle d'une mairie aussi, c'est de prendre un petit peu la mesure de ce que l'on peut faire et d'accompagner les commerçants, les professions libérales, de façon à permettre l'accessibilité de leur lieu.
Quelles sont ces aides ?
Alors, ce sont des aides qui peuvent être données au niveau européen, hein, et des aides au niveau national. Voilà. Il faut aller les chercher, il faut les aider à monter le dossier. Et le rôle que nous souhaitons mener donc auprès de ces propriétaires privés, parce qu'en effet, c'est du privé, c'est justement de les aider, de les accompagner. Donc de reprendre quartier par quartier, là où il faut impérativement que l'on fasse des efforts.
Très bien. Il nous reste 5 minutes pour conclure cette émission. L'hôpital demande la question à M. Pertossi. C'est Luc qui va la poser.
Donc l'hôpital est dirigé par un conseil d'administration où ouais. La mairie occupe la présidence. Il y a un grand projet de fusion qui est en cours au niveau de l'hôpital. Comment vous, à la mairie, comptez-vous gérer ce projet-là de fusion, le mener à bien ou pas d'ailleurs
Alors, vu l'état actuel. Il n'y a pas que la fusion.
Il n'y a pas que la fusion.
La fusion
c'est le premier point. On parlera des autres après.
Alors, la fusion, on est OK, tout à fait d'accord avec cette fusion, puisque c'est une fusion avec une clinique privée, mais non lucrative. Mais il n'y a pas que ça. C'est là qu'on va comprendre que une équipe municipale, ce n'est pas qu'une équipe de gestionnaires, c'est aussi une équipe de gens qui sont investi politiquement et qui mène une ligne politique. Le gros problème à Mende, c'est le même problème que partout ailleurs en France. On a eu un partenariat public-privé, encore une fois, qui s'est développé en France, une privatisation des soins. C'est notamment la loi mise en place par M. Juppé, qui n'a jamais été remise en cause, qui fait que tous les ans, on vote une loi cadre. C'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui s'impose à tout le monde, au niveau notamment donc au niveau régional, à travers la RSS, et qui vient fixer un budget indépassable. Bon. Là, on est dans toute une politique globale de la sécurité sociale. Le problème qui se pose, et donc sachez qu'on en a conscience, et c'est le berceau de notre réflexion, c'est de sauver tout le système de sécu en France qui est exceptionnel dans le monde. Hein. Okay. Alors, si on n'est pas d'accord avec, on dit que c'est un système soviétique. Si on le vit, on trouve qu'il est exceptionnel. Donc nous, l'idée, c'est de le défendre. Ici, à Mende, qu'est-ce qui peut se passer et pourquoi on a peur ? Et là, on est tous d'accord. Une municipalité a très peu de marge de manœuvre, mais elle en a. Il suffit qu'elle le veuille. L'hôpital risque de fermer. Il suffit qu'il y ait un secteur de l'hôpital qui ferme. La maternité a failli fermer. Ça s'est joué à une naissance. Il y a eu 501 naissances. En dessous de 500, c'était remis en cause. Un seul secteur qui ferme, vous avez tout le système qui flanche. Donc il faut se battre au quotidien pour pouvoir le mettre en place. Donc le partenariat avec Marvejol. Mais aussi mettre en place des projets hyper innovants. Il faut qu'on soit à la pointe. Il faut qu'on soit à la pointe. On est un cas particulier en France parce qu'on est le seul hôpital départemental. On doit être à la pointe, notamment avec les relations avec le CHU, les CHU de Montpellier. Avec les CHU de Montpellier, faire venir, par exemple, des médecins par tranche de 15 jours en avion, on pourrait les faire venir. Ça coûterait beaucoup moins cher qu'à la Sécu, de faire des navettes en ambulance. Parce que vous avez des quantités de navettes assez hallucinantes qui se font entre... La réforme aussi fixe qu'il faut être à moins de 30 minutes d'un centre, et ainsi de suite. C'est en hélicoptère. Or, en hélicoptère, quand il neige, ils ne veulent plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On meurt ?
Madame Guittard, vous voulez réagir ?
Je disais simplement que ce n'est pas le même budget. Faire venir des médecins en disant que ça ferait faire des économies à la sécurité sociale, le budget de la sécurité sociale et le budget de l'hôpital qui dépend de l'ARS, ce sont deux choses différentes. Juste une petite remarque.
On est d'accord, mais je parlais dans le système global.
Non. Oui, si je peux, Luc répond.
Pour continuer avec ces médecins, on sait qu'il y a beaucoup de médecins.
Toujours moi ou...
Oui, toujours, bah, toujours vous.
On clôture pour l'hôpital avec chacun et on fera la conclusion finale.
Il y a beaucoup de médecins qui aujourd'hui viennent de l'extérieur, qui sont payés très cher.
Ouais.
Là, c'est sur le budget de l'hôpital.
Ouais.
Justement, est-ce qu'il y a des pistes pour réduire ces coûts-là et du coup réduire les coûts
Par exemple, la télémédecine, si vous allez il vous suffit d'aller sur le site internet de l'hôpital, vous regardez des projets. Et là, vous avez des professionnels qui sont là, qui ont réfléchi, ils proposent la télémédecine. Ils proposent, c'est quoi la télémédecine hein ? C'est de pouvoir, en gros, je vous le résume, vous faites une radio amende, vous avez un spécialiste qui peut aussi la regarder en même temps à Montpellier. Ils proposent aussi ce partenariat avec le CHU de Montpellier. On n'est pas en train d'inventer quelque chose qui est irréalisable budgétairement. Donc voilà, et il faut que M. Bertrand, il soit au clair là-dessus. Parce qu'il est directeur de l'hôpital, il est aussi sénateur, il vote le plan, la loi cadre de budget annuel. Donc voilà quoi. Voilà.
On reviendra justement sur ce qu'a fait M. Bertrand pendant ce mandat pour l'hôpital de Mende. Avant cela, Mme Guittard, l'hôpital de Mende, même question. La fusion, bien sûr, je suppose que vous êtes pour, on la continue. Et qu'est-ce qu'on fait de ces médecins mercenaires ?
Alors, on la continue pour le moment, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si la fusion va avoir lieu. Nous y sommes bien sûr favorables à une condition, c'est que ça ne mette pas en danger l'hôpital de Mende. Faire cette fusion doit être faite avec l'assurance que l'ARS va permettre d'abord de combler le déficit donc de la structure de Marvejols. Par contre, il est important en effet que il y ait une réflexion globale sur le département et sur le partenariat qui est à développer avec Marvejols. Il faut arrêter, et ça je pense que quel que soit notre projet ou nos envies, il faut que tout le monde tire dans le même sens, de façon à ce que nous ayons une structure sur Mende et une structure sur Marvejols qui persiste, avec une complémentarité aussi bien sur le plan médical que sur le plan de la gestion. Alors, les médecins mercenaires, alors d'abord, j'aime pas trop ce terme mercenaire, peut-être parce que je suis médecin. Nous sommes
Ça donne une image à nos auditeurs.
Oui, ça donne une image qui n'est pas bonne, parce que je rappelle quand même que bon.
Oui, mais qui n'est peut-être pas fausse aussi. Hein.
Le métier médical est quand même quelque chose de difficile. Nous sommes une denrée rare, les médecins maintenant. Ce n'est pas lié uniquement à Mende, hein, c'est général. Nous manquons de médecins aussi dans l'administration. Hein. Moi, si vous me trouvez un médecin scolaire, je le prends tout de suite. Il n'y a pas de souci. Hein. Que faire ? Écoutez, il y a plusieurs petites pistes que l'on peut créer, mais moi je dis toujours que déjà que que les médecins restent, hein, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on a des médecins qui ne veulent pas rester sur Mende ? Est-ce que ça vient d'un problème au niveau du plateau technique ? Est-ce que ça vient d'un problème d'attractivité au niveau de la ville ? Hein, ce n'est pas peut-être simplement le manque de médecins non plus. Hein. On a un plateau technique qu'il faut améliorer. Je ferai juste une petite parenthèse d'ailleurs, c'est que M. Bertrand, qui est président donc, du conseil d'administration, connaît un peu mal son hôpital, puisque dans ses projets, il parle d'un mammographe neuf à mettre en œuvre, sauf qu'il est installé déjà depuis 6 mois. Donc il y a un plateau technique qui évolue, donc petit à petit. Il faut peut-être l'améliorer, il faut peut-être apporter des conditions de vie aussi pour ces médecins et leur entourage qui soient peut-être un petit peu plus attractives sur la vie de Mende. C'est vraiment un ensemble. Après, il y a à aller chercher. Bon, le Conseil général a eu des pistes aussi pour chercher des médecins libéraux à installer sur la ville de Mende. Peut-être qu'il y a ce genre de pistes aussi à aller creuser, savoir comment on peut aller un petit peu chercher des médecins autre part qui veulent bien s'installer et pas simplement venir faire 15 jours et partir. Parce que vous dites la télémédecine, je suis d'accord. La télémédecine, ça existe. La télémédecine, ça rend service. Ça ne remplacera pas l'humain. Examiner un malade, je suis désolée, on ne le fera jamais en télémédecine. Voilà.
Le diagnostic, on mais fonctionne même, en équipe quand on
mais, est médecin. Mais même pour le diagnostic, hein, palper un ventre et mettre un stéto, on ça ne se fera jamais par télémédecine. Ce sont en effet des pistes qui sont à développer pour l'hôpital. Pour ça, il faut qu'on ait un réseau internet très haut débit donc qui permette de le faire. Mais on aura toujours besoin de médecins qui opèrent. Voilà, on n'a pas encore des robots dans tous les domaines.
Ce qui prouve d'ailleurs que c'est très grave la situation à l'heure actuelle. Le numerus clausus est une catastrophe.
Voilà, ça c'est un problème au niveau national.
Oui, tout à fait.
Et la difficulté d'attirer des médecins en zone rurale. Madame Bourgade, le bilan du mandat Bertrand concernant l'hôpital de Mende et son poste au sein de ce conseil d'administration, cette présidence ?
Eh bien, contrairement à ce que monsieur a dit, monsieur Bertrand n'est pas équivoque. Il a toujours dit clairement que la fusion devait se faire avec la mutualité, mais qu'elle devait se faire à une certaine condition et pas n'importe quelle condition. Elle ne peut se faire que si on préserve les deux établissements, que si les deux établissements peuvent fonctionner. Aujourd'hui, avec le déficit de l'établissement de Marvejols, il n'était pas possible de le prendre en l'état. Donc, Monsieur Bertrand, il est dans la lignée de ce qu'a fait le docteur Jean-Jacques Delmas jusqu'à maintenant pour l'hôpital. Pendant ces 6 années, il s'est battu pour performer l'établissement. Et demain, d'autres moyens vont être mis en place, notamment donc la fusion, achever l'installation de l'IRM fixe, qui est prévue pour début 2015. On en parle depuis très, très, très longtemps. Mais là, cette fois, les financements sont en place de début 2015. Les travaux, à l'heure actuelle, pour pouvoir l'accueillir, sont en cours. Et donc, il sera installé. Comme vous l'avez dit, le développement de la télémédecine, le partenariat avec le CHU de Nîmes et de Montpellier, c'est incontournable. Et notamment maintenant, dans le but de performer le traitement de l'AVC, de pouvoir le traiter à distance. Améliorer donc la synergie avec les hôpitaux locaux par le biais de la facturation communauté hospitalière de territoire dès 2014. Il y a un projet de Marisol Touraine là-dessus pour une modification de la loi. Ensuite, c'est grâce aux équipes médicales, soignantes, techniques et administratives de haut niveau que l'hôpital peut être le fer de lance de la santé sur le territoire de la Lozère. Et financièrement, on dit souvent que l'hôpital est en déficit. Ce n'est pas exact de le dire. Nous avons un hôpital qui est qui a le moins de déficit de l'ensemble des hôpitaux de France, c'est-à-dire il finit avec un déficit de 300 000 euros. Donc ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'il n'y a pas que l'hôpital en termes de santé, puisqu'aujourd'hui on travaille aussi avec Lozère Dépistage, on a des conventions de communication, on travaille aussi avec l'association François Aupetit pour la mise en place d'un plan urgence toilette sur la ville,
et également
on va remplacer les 20 défibrillateurs qui aujourd'hui sont obsolètes.
Très bien, Madame Guittard, il vous reste une minute pour réagir et Madame Bourgade, vous pourrez répondre aussi pour arriver au niveau de Monsieur Pertz aussi.
Ça va être dur d'arriver à mon niveau.
D'autant, je parle du moins. Je ne jugerai pas vos interventions.
Non, je voulais rebondir sur le déficit de l'hôpital parce que j'entends, l'hôpital est en déficit, mais bon, nous sommes les moins déficitaires des autres hôpitaux. Personnellement, c'est quelque chose qui ne me satisfait pas. L'hôpital est en déficit, oui, c'est vrai, et plus de 200 000 euros parfois, puisque ça a pu atteindre même jusqu'à 1 million d'euros. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut que chaque année, il faut aller argumenter auprès de l'ARS de façon à combler ce déficit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise de façon à être sûr d'avoir les moyens nécessaires pour tourner. On court le risque, si on n'arrive pas un jour à équilibrer, et je ne suis pas sûre qu'on y arrive, mais c'est pas du pessimisme important, parce que l'hôpital a des missions d'intérêt général qui, entre guillemets, ne rapportent rien. Nous sommes à la tarification, à l'activité. Alors Marisol Touraine, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas l'intention de revenir sur la T2A. C'est pas vrai. Elle a l'intention de l'aménager et de parler maintenant de contrats de qualité et de performance. Alors ça me fait toujours peur, moi, en tant que médecin, quand on parle qualité et performance, parce que sur quels critères va-t-on se baser ? Donc on ne reviendra pas complètement sur la tarification à l'activité, ce qui continuera à mettre nos hôpitaux, les petits hôpitaux locaux comme celui de Mende, en difficulté et en déficit. Voilà. Donc il faudrait arrêter de dire qu'il n'y a pas de déficit, il y a un déficit structurel.
Très bien, Madame Guittard, c'est parfait, vous êtes quasiment au même temps que Monsieur Pertossi. Pour rebondir sur ce que vous dites, de toute façon, on sait que les hôpitaux, ça reste des structures en déficit, c'est un service public, on l'a dit, on peut rien y faire, surtout en zone rurale. Madame Bourgade, pour clôturer, il vous reste 1 minute 30 sur l'hôpital de Mende.
Mais simplement, je voudrais rassurer les auditeurs, et puis les auditeurs qui ont besoin de faire appel au centre hospitalier, que M. Bertrand, tous les jours, se bagarre avec M. Scotto, le directeur, pour faire en sorte que l'hôpital devienne de plus en plus performant et qu'on arrive à la fusion avec la mutualité de Marvejols. Mmh.
voilà, des interventions au niveau régional, voire plus. Vous êtes un peu en retard, Madame Bourgade. Je vous laisse peut-être une question d'Adrien pour finir cette minute, avant de conclure cette émission, parce qu'on a légèrement débordé aussi.
Oui, Madame Bourgade, vous avez déclaré que l'enjeu, c'était de rendre l'hôpital plus performant. Est-ce que ce n'est pas aussi de le rendre plus autonome par rapport justement au grand pôle santé qu'il y a ailleurs dans la région, à Nîmes ou Montpellier ?
Et pas forcément, parce qu'il y a besoin également des grands pôles santé, puisque nous n'avons pas la totalité des intervenants sur place, et il y a nécessité d'avoir ce rapprochement entre les deux CHU pour avoir de la médecine plus pointue que nous ne pourrons pas avoir sur place, et justement pour éviter aussi ces médecins qui ne viennent que ponctuellement et qui grèvent de façon très importante le budget de l'hôpital.
D'accord. Luc Respond, peut-être une question avant la conclusion ?
On sait ce que ça représente sur le budget d'un hôpital, ces médecins qui viennent de l'extérieur, si c'est vraiment un gros problème au niveau notamment de son déficit.
Oui, c'est vraiment un gros problème parce que non seulement c'est les médecins, mais c'est aussi les anesthésistes la plupart du temps. Et ça a un coût nettement supérieur à ce que coûte un médecin à temps plein sur l'hôpital.
Très bien, on va maintenant arriver à la conclusion. Vous aurez un petit peu plus de temps que les autres, Madame Bourgade, parce que vous êtes en retard et on ne va pas vous questionner pendant 2 heures sur l'hôpital. On a commencé par Madame Guittard, cette émission. La première question, on a fini par Monsieur Pertossi, donc on va vous laisser l'honneur, vous, de commencer cette conclusion.
J'ai combien de temps ?
1 minute pour conclure cette émission.
Ok, 1 minute. Donc, quand dimanche 23, les Mandoises et les Mandois glisseront leur bulletin de vote, mandat gauche à Belle la Rebelle, ça va permettre 3 choses. La première des choses, vous allez envoyer un message immédiat que vous voulez stopper l'austérité et que vous voulez du changement. Ensuite, vous allez permettre à vos élus locaux de modifier la donne au niveau du Sénat, puisque vos élus municipaux éliront les élus nationaux. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cas notamment de M. Bertrand. Et enfin, vous allez changer les choses localement. Une régie publique de l'eau, un quotient familial en cantine et en culture, un véritable lieu pour les femmes battues, un hôpital qu'on va défendre bec et ongles, des logements pour tout le monde, les plus bas loyers comme les loyers médians, et surtout, on n'en a pas parlé aujourd'hui, le soutien au CCSS qui est remis en cause aujourd'hui. Ils ont une espèce de moratoire de 9 mois. Ils sont en lutte, ils sont tout seuls. Voilà, nous, on sera avec eux, le maire et toute son équipe à fond derrière. Donc voilà, national, local, votez pour nous.
Très bien. Madame Guittard, pareil, conclusion. Vous avez 1 minute 15 pour conclure cette émission.
Alors, 1 minute 15 pour essayer de persuader les Mandois et les Mandoises que notre projet il est cohérent, que notre projet il est basé sur des choses qui sont réalisables. Nous voulons plus de liens entre les habitants, beaucoup plus de concertation. Nous soutiendrons bien sûr tout ce qui est service public. Alors, vous parlez de la caisse de sécurité sociale, mais si quelqu'un dit qu'il ne veut pas la soutenir, je pense qu'il peut retourner chez lui de toute façon. Nous souhaitons surtout essayer de redynamiser cette ville sur une équipe avec une tête de liste donc qui a décidé de se consacrer entièrement à sa ville, de façon à être au plus près des Mandois, de façon à pouvoir défendre leur quotidien tout en continuant à structurer cette ville sur des aménagements donc, qu'ils souhaiteront mettre en place, en faisant très attention au budget de la ville. Je pense que les gens payent suffisamment actuellement d'impôts, que ce soit au point de vue national ou au point de vue local, et ils veulent pouvoir récupérer du pouvoir d'achat. Et c'est ce que nous allons essayer de leur offrir si les Mandois et les Mandoises nous élisent le 23 mars.
Très bien, Madame Guittard, vous êtes quasiment au même point que le Front de Gauche à 10 secondes, enfin moins de 10 secondes près, on va s'arrêter là.
Je suis la meilleure.
Madame Bourgade, pour conclure.
Mais simplement, moi je voudrais dire qu'heureusement qu'on n'a pas attendu les élections municipales du 23 mars et du 30 mars pour se préoccuper de la Caisse commune de sécurité sociale. Il y a bien longtemps que M. Bertrand travaille au niveau du ministère pour faire en sorte que ce projet qui a été porté, ce projet innovant, puisse perdurer. Donc pour moi, pour conclure, Mende, qui est une ville qui construit, qui prépare l'avenir, qui crée des richesses, qui ose. Notre équipe est une équipe libre, sans tutelle, sans esprit partisan, seulement animée par l'amour de la ville et l'amour de ses habitants. Donc, pour faire gagner Mende et les Mendois, par-delà tous les clivages, le 23 mars, votez irrésistible Mende et surtout, votez.
Et surtout, voter, c'est bien sûr tout ce qu'on souhaite pour la ville de Mende et pour la France en général. C'est important d'aller voter. Merci à nos trois interlocuteurs d'avoir parlé de social et de santé.
Et merci à vous.
On retrouve bien sûr la suite de ces débats vendredi, midi et demi. On parlera d'économie, développement économique, après le social. Et non, je ne vous donne pas la parole, monsieur Pertossi, c'est fini. Terminé. Allez, merci aussi aux journalistes présents.
Merci.
Et à bientôt.
Radio Totem,
Midi Libre,
48 F,
Municipal 2014, Mende.
Le débat.
Le débat.
Municipal 2014.